Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau. Je vous livre un nouveau balado portant sur les standards de soins de l'ADA en diabète 2024. Nous allons survoler aujourd'hui ensemble les nouvelles recommandations portant sur la prise en charge des patients diabétiques avec une atteinte rénale. Et pour ce faire, j'accueille mon expert aujourd'hui, Dr Judith Bellemare, qui est néphrologue à l'UCPQ. Je vous rappelle à tous nos auditeurs que le chapitre est téléchargeable en PDF sur le site coeurpoumon.ca ou en cliquant sur le lien contenu dans la description de ce podcast. Alors bonjour Judith, il y a eu beaucoup de changements dans les 3 à 4 dernières années dans la prise en charge de l'atteinte rénale chez le diabétique. Donc ce que j'ai appris, c'est que l'atteinte rénale se définit maintenant par une baisse persistante du DFGE ou par la présence de persistante de proténurie. Donc quelles sont les recommandations dans le type 1 ou 2 pour la fréquence et le type de test à demander pour valider la présence d'une néphropathie diabétique?
Alors, bonjour Claude, je suis bien d'accord. En effet, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années pour le traitement du diabète et la néphropathie diabétique. Puis c'est sûr que la clé va passer par le dépistage puis d'être à l'affût des impacts de la manière que peut se présenter la néphropathie diabétique. Fait que d'une part, on va vérifier, c'est sûr qu'il faut toujours s'assurer d'avoir une mesure de la fonction rénale, calculer le DFGE qui est estimé à partir de la créatinine sérique. Et ça prend aussi une mesure de la protéinurie qu'on calcule sur un spot urinaire avec un ratio albumine sur créatinine. Les recommandations suggèrent en fait que chez les patients diabétiques de type 2, ce soit évalué dès le diagnostic. Puis après ça, on le fait de manière récurrente. Et chez les diabétiques de type 1, les guidelines recommandent de le faire après 5 ans, après le début du diagnostic. Mais il faut garder en tête que après ça, il faut s'ajuster pour le suivi. C'est-à-dire que si on a une fonction qui est tout à fait normale, on va pouvoir espacer les suivis, mais s'assurer de le faire au moins une fois par année. Mais si on a une atteinte avec une baisse du DFGE ou une protéinurie, à ce moment-là, dans les lignes de pratique qui ont été publiées, on a une carte thermique qui va situer les patients en fonction du stade d'insuffisance rénale qui se définit à la fois par l'atteinte au niveau du DFGE et de l'albuminurie, puis ils nous recommandent une fréquence de suivi en fonction du risque qu'ils ont de progresser vers une insuffisance rénale plus avancée.
Alors, cette fameuse figure 11.1 dont tu fais référence dans le texte du chapitre de l'ADA, le chapitre 11, nous montre assez élégamment que la proténurie et la baisse de DFGE sont vraiment synergiques pour prédire l'apparition des complications rénales ou du diabète. Est-ce que je me trompe?
Non, tu as tout à fait raison. C'est très utile pour situer nos patients justement en fonction de ces deux paramètres-là pour le risque qu'ils projettent dans le futur. Ça aide d'adapter le suivi, d'avoir des interventions plus régulières et plus intensives.
Auparavant, on accordait une valeur à la prise d'un IAC dans la prévention de la néphropathie et ça m'a surpris. Est-ce que c'est encore le cas?
Mais en fait, il faut faire attention, c'est pas une recommandation en prévention. Il faut avoir une indication pour avoir une indication claire de débuter un IECA ou un ARA. Les bénéfices ont été démontrés chez les patients qui ont soit une atteinte de la fonction rénale avec une protéinurie, chez les patients diabétiques ou un patient diabétique avec une hypertension. Fait qu'il faut avoir une de ces trois conditions-là, soit une insuffisance rénale, une proténurie ou une hypertension chez un patient diabétique. À ce moment-là, l'IECA ou l'ARA prend toute son importance. Si on ne remplit pas ces conditions-là en prévention, c'est moins clair, c'est pas interdit d'en débuter un, mais il revient un peu sur le même niveau que n'importe quel autre traitement d'hypertension, c'est-à-dire les trois molécules de base qu'on va débuter normalement, ça va être un IECA, un ARA, un BCC ou encore un thiazide,
Donc, c'est un petit changement que je trouve intéressant. Ce qu'on apprend aussi dans le texte, c'est que la fréquence cumulative de l'atteinte rénale en diabète de type 2 est encore de façon surprenante très élevée.
Oui, en effet. Il y a une fréquence cumulative qui est dans le type 2 qui est entre 20 à 40 % Puis il faut garder en tête que le rein a une mémoire métabolique. Ça insiste sur l'importance de contrôler les glycémies de manière rapprochée parce qu'un diabète qui au départ va être plus long à contrôler, même si après on prend le contrôle du diabète, bien, il va avoir une détérioration qui va se poursuivre parce que le rein a une mémoire.
Comment est-ce qu'on définit maintenant l'atteinte rénale diabétique à partir de nos tests qu'on a demandés?
Par définition, ça va être un DFGE qui va être inférieur à 60 et une protéinurie qui va être supérieure à 30 mg par gramme ou un ratio à 3 mg par millimole de créatinine. Il faut que ce soit des tests qui sont activés à deux reprises. Puis, c'est important de noter que les patients qui ont une atteinte diabétique rénale peuvent avoir soit l'un ou l'autre de ces conditions, soit seulement une baisse du DFGE sans protéinurie ou une protéinurie sans atteinte du DFGE. Les deux ne sont pas obligatoires. Auparavant, on croyait que l'insuffisance rénale venait d'abord et ensuite la protéinurie, mais on peut voir l'inverse. À noter que le terme microalbuminurie ne devrait plus être utilisé dans ce contexte en 2024 si on se réfère rapport à la charte thermique. On voit qu'on va plutôt grader en stade A1, A2 ou A3 selon la quantification de la protéine.
Il est assez facile de faire le diagnostic de néphropathie diabétique, mais dans quelle situation on devrait référer le patient en néphrologie pour préciser que le diabète est la seule cause ou est en cause dans l'atteinte rénale diabétique?
Bien, en fait, il va y avoir des critères de référence en néphrologie qu'il faut demeurer à l'affût de signes qui pourraient être suspects que ce n'est pas un simple diabète qui mériterait une évaluation plus approfondie en néphrologie. À titre d'exemple, une présence d'un sédiment urinaire actif, si on voit des cylindres hématiques ou encore une hématurie microscopique qui persiste, c'est pas normal en néphropathie diabétique. Si on voit une apparition brutale d'une protéinurie massive, ça reste atypique aussi. D'habitude, une protéinurie chez une néphropathie diabétique, ça va s'installer progressivement. Ensuite, si on a un déclin accéléré de la fonction rénale, c'est suspect aussi. Nos diabètes qui vont vite peuvent atteindre jusqu'à du moins 5-6 minutes par année. Mais si ça va au-delà de ça, il faut se poser des questions. Puis également, chez les types 1, on sait qu'il y a une association entre la rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique. Un type 1 qui a un diagnostic qui est récent ou encore qui n'a pas du tout d'atteinte oculaire, bien, il faut se poser la question si c'est vraiment le diabète qui a atteint ses reins ou s'il n'y a pas une autre maladie sous-jacente.
Comme petit interniste qui est non néphrologue, je pense que dans les cas où on remarque une diminution rapide de la fonction rénale en jour ou encore qu'on a une baisse de moins de 30% du DFGE, assez rapidement, on devrait songer à une atteinte autre que diabétique aiguë. Donc, il faut trouver d'autres causes de détérioration de la fonction rénale.
Exact. Il faut garder un niveau de suspicion qui est élevé. Puis même les prochaines recommandations qui vont sortir, on recommande même une détérioration de 20% inexpliquée mérite d'être investiguée en néphrologie. Il faut s'assurer que le patient n'a pas pris d'anti-inflammatoire, qu'il n'y a pas eu d'exposition à l'iode, de coronarographie. Il faut vérifier si on ne peut pas avoir entretenu un état de déshydratation avec des diurétiques à dose trop élevée ou s'il n'y a pas eu un événement de maladie avec poursuite de médications comme un IECA ou un ARA ou un patient sous Entresto, par exemple. Puis, c'est sûr qu'il faut garder en tête que si notre patient est un homme, il faut s'assurer qu'il n'est pas en obstruction, qu'il n'y ait pas un globe vésical. Puis ça peut facilement être évalué par un balorcal ou une échographie pour s'assurer qu'il n'y a pas une obstruction qui est présente. Ça consiste à faire une évaluation initiale d'une insuffisance rénale aiguë. Puis, c'est sûr que chez nos patients un peu plus âgés, en haut de 50 ans, mais il faut penser aussi à ajouter une insuffisance rénale qui progresse rapidement, qui est soutenue. Il faut s'assurer d'ajouter un blood yellow multiple en même temps aussi.
Donc, on fait une électrophorèse des protéines, on demande le calcium. Donc, on fait un petit néphrologue de nous avant de vous l'envoyer.
Exact.
Donc, ça m'est plus facile. Il y a un frère néphrologue qui m'a quand même vraiment puni plusieurs fois parce que je ne faisais pas la base avant de l'envoyer. Donc, une fois que le diagnostic de néphropathie est posé, que les traitements sont débutés, ça prend un suivi rénal régulier et permanent pour voir le déclin de la fonction rénale.
Oui, exact. Il faut s'assurer d'avoir un suivi régulier. Puis encore, je réfère à la carte thermique là, qui permet d'évaluer la fréquence qui est nécessaire. Il faut également suivre les débalancements qui peuvent découler de son insuffisance rénale. Entre autres, il faut surveiller les fluctuations de potassium, surtout avec la médication qu'on va vouloir instaurer en néphropathie diabétique. Puis il faut s'assurer de garder un œil aussi sur la protéinurie, au moins annuellement et même plus souvent selon le degré d'atteinte. Si une réponse qu'on vise, ce serait une baisse de protéinurie au moins de 30% ou encore de ramener à des niveaux qui sont inférieurs à 30 mg par gramme ou un ratio de 30 mg par millimol.
C'est peut-être une méconception qu'on voit souvent dans la pratique, mais beaucoup de gens qui pensent que c'est possible de normaliser la protéinurie, mais c'est pas le cas. C'est pas l'objectif primaire de notre traitement.
C'est pas l'objectif primaire. C'est rarement atteint, mais le plus bas sera le mieux.
Maintenant, on va parler rapidement là, du traitement de la néphropathie une fois le diagnostic est fait. Quels sont, pour commencer, les objectifs nutritionnels et du contrôle glycémique?
Parfait. Au niveau des objectifs nutritionnels, pour diminuer la protéinurie, on sait qu'il va être recommandé d'avoir une certaine restriction en protéines alimentaires. Chez les non-diabétiques, on parle de 0,8 g par kilo, assurément en bas de 1,3 g par kilo. Ça va être d'autant plus important si on a une protéinurie qui est significative. Dans le même sens aussi, on veut s'assurer d'avoir une restriction en sel qui devrait être au moins en bas de 2300 mg par jour pour s'assurer à la fois, ça permet d'avoir un contrôle de l'hypertension artérielle, mais également il y a un impact au niveau de la protéinurie. Ensuite, le bénéfice d'un contrôle strict de la glycémie, bien, c'est de base, là, c'est surtout en prévention primaire, puis pour essayer de, comme on discutait un peu tout à l'heure, essayer d'éviter l'apparition de dommages. En prévention secondaire, il y a aussi un bénéfice, mais une fois que les dommages sont installés, ils vont continuer de progresser. Puis le bénéfice est plus lent d'apparition. Avec un contrôle très strict de la glycémie chez le patient avec une insuffisance rénale sévère, une fois rendu au stade sévère, ça apportera pas de grands bénéfices au côté rénal. Il faut faire attention au risque d'hypoglycémie. Puis à ces stades-là d'insuffisance rénale, souvent les cibles d'HbA1c sont un peu plus relâchées chez ces patients.
Mais là, par exemple, on va avoir des objectifs tensionnels un peu plus stricts que les objectifs glycémiques.
Oui, exactement. Chez nos diabétiques, on va viser des tensions en bas de 130 sur 80 pour ce qui a été suggéré pour diminuer les risques cardiovasculaires. Et même les guidelines de néphrologie suggèrent que les patients qui ont une protéinurie qui est significative, on va essayer de le baisser encore même davantage. On peut viser des cibles en bas de 120 pour essayer de minimiser justement la protéinurie, améliorer le contrôle.
Et donc, l'IAC devra toujours être prescrit en néphropathie diabétique à la dose maximale. Parlons donc, si vous voulez, du troisième pilier du traitement de la néphropathie. Alors, je vous laisse aller, les inhibiteurs de la SGLT2.
Oui, tout à fait. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs études qui nous ont démontré les bénéfices autant au niveau néphrologique que cardiovasculaire de l'introduction d'un inhibiteur de SGLT2. Et on débute à faible dose, puis ça a été démontré que ça pouvait réduire, que ça réduisait les risques chez les patients et que même au niveau cardiovasculaire, puis les études néphrologiques diminuaient le risque d'un outcome rénal était un déclin de 50% ou plus de la fonction rénale et l'évolution vers une insuffisance rénale terminale. Fait qu'il y avait une diminution du risque d'environ 30%. Ils ont un impact positif sur la protéinurie de 30 à 50% chez les patients avec une protéinurie importante. Puis, c'est important de garder en tête, de souligner que l'effet hypoglycémiant des inhibiteurs de SGLT2 est pratiquement nul lorsqu'on arrive à des DFGA inférieurs à 45 ml par minute, mais que le bénéfice vasculaire et rénal demeure. C'est pas l'effet sur la glycémie qu'on va rechercher, c'est vraiment l'effet bénéfice cardiovasculaire et rénal. De plus, le bénéfice cardiovasculaire va exister même chez les patients qui n'ont pas de protéinurie au départ, mais seulement une atteinte du DFGA.
Donc, c'est important là, de noter que si on donne une inhibiteur de SGLT2 en insuffisance rénale modérée à sévère, on baissera presque pas les glycémies. Il y a très peu d'effets secondaires hypoglycémiens parce que ça fonctionne pas sur les glycémies. Alors, si on a besoin d'un contrôle glycémique pour ces patients-là, ben, on peut facilement avoir recours à un agoniste de la GLP1 ou un inhibiteur de la DTP4 avec des doses ajustées parce que ça permet, même en insuffisance modérée à sévère, un meilleur contrôle glycémique. Puis, j'aimerais mentionner qu'il y a une étude récente avec la semaglutide, qui est un agoniste de la GLP1, qui démontre une réduction des événements rénaux chez les patients qui avaient une protéinurie. Ce sera peut-être le cinquième pilier bientôt. Maintenant, Judith, pour terminer cette belle séance, qu'est-ce que la finérénone?
D'accord. La finérénone, en fait, c'est un cousin de l'aldostérone et de l'éplérénone qui sont déjà disponibles. C'est un inhibiteur de l'agoniste des récepteurs du récepteur minéralocorticoïde, mais c'est un inhibiteur qui est sélectif, qui, contrairement à ses cousins, présente une haute affinité pour le récepteur des minéralocorticoïdes et très peu d'affinité pour les récepteurs stéroïdiens, ce qui amène comme conséquence qu'il y a moins d'effets secondaires. On pense entre autres à la gynécomastie, il y a moins d'effets hyperkaliémiants, puis ce qui est des études animales ont démontré aussi, c'est qu'il semblait avoir une meilleure distribution tissulaire, plus équilibré, là, mieux balancé au niveau du cœur et des reins. L'intérêt de la finérénone est venu, dans le fond, s'inscrire un peu à la suite des avantages qui avaient été observés avec les IACA et les ARA, c'est-à-dire qu'ils viennent bloquer la même voie de signalisation du SRA, du système rénine-angiotensine-aldostérone, afin de limiter les dommages, entre autres, induits par l'aldostérone au long cours. L'aldostérone, on sait qu'elle a une activité qui est thémique, qui est associée avec des effets qui provoquent un état inflammatoire, un état pro-fibrotique, puis une activation de ce système-là est associée à des risques cardiovasculaires significatifs. Et qu'une inhibition de cette voie de signalisation-là a déjà montré ses bénéfices avec les ICA et les ARA. Fait que la finérénone a été étudiée dans ce contexte-là. Il y a deux études qui ont été faites, les études Fidelio et Figaro. L'étude Fidelio étudiait les outcomes rénales et l'étude Figaro se concentrait sur les bénéfices cardiovasculaires. Puis les deux ont démontré, grosso modo, en résumé, que dans le fond, le fait d'ajouter le finérénone avait vraiment des effets néphroprotecteurs sur les risques d'évoluer vers de l'insuffisance rénale terminale et également une diminution du risque d'événements cardiovasculaires.
Pouvez-vous me parler peut-être des doses de ces traitements-là quand on commence, peut-être du suivi du potassium, parce que de façon pratique, c'est à peu près la seule chose qu'on a regardée.
Oui, en fait, c'est sûr que le finérénone, dépendamment de l'atteinte de la fonction rénale, on peut deux doses qui sont disponibles. On peut commencer à 10 mg ou à 20 mg. Fait que si on a une atteinte rénale qui est sévère, on va y aller plus doucement, on va commencer à 10 mg. Puis si on a une fonction rénale qui est entièrement normale, on va la commencer à 20 mg d'emblée. Il faut s'assurer qu'on a un potassium qui est sécuritaire avant l'introduction, parce que même s'il y a un profil qui est un peu plus sécuritaire que l'aldactone ou l'eplérénone, il reste qu'il y a quand même des événements d'hyperkaliémie qui sont qui peuvent être observés. C'est important dans les semaines qui suivent l'introduction de la molécule, entre 2 à 4 semaines, de faire un contrôle de la fonction rénale et de son potassium. Il faut, avant de l'introduire, s'assurer qu'on a un potassium qui est inférieur à 4,8, puis il faut s'assurer de le contrôler par la suite.
Le chapitre est donc disponible sur le site Cœur pour moi avec AS.ca ou dans la description de ce balado de diffusion et qu'il est téléchargeable tout à fait légalement. Alors j'espère que vous aurez l'intérêt d'aller regarder ce chapitre et d'autres balados qui sont disponibles en fréquentant notre plateforme Cœur pour moi avec AS.ca. Je vous remercie beaucoup, Dr. Judith de Bellemare, de nous avoir prêté généreusement de votre temps. À nos auditeurs, bonne écoute et à la prochaine.